Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
Bonjour Caroline.
Bonjour Pierre.
Alors, est-ce que ce fut le festival du barbecue dans ton coin de pays?
Ben pas mal. Écoute, on s'est pas mal emballé, excité. Franchement, mais ça fait du bien.
Ben,
je sais pas pour toi là, mais ces rayons de soleil ont fait du bien. Alors, on est prêt pour une autre semaine.
Et je fais partie de ces gens que Maude décrivait qui nettoyaient leur voiture avec la balayeuse et tout ça. Ça fait du bien de s'inscrire dans un mouvement de groupe. Mais et d'ailleurs, c'est vrai, il n'y a pas que la vaccination. On sent une espèce d'élan, mais toi, tu veux me parler d'états généraux sur la condition de vie de nos aînés.
Ben oui, en fait, ce sera rendu public aujourd'hui, Pierre, et je pensais que ça t'intéresserait de savoir qu'en fait, oui, il y a une grosse coalition, en fait, la Coalition pour la dignité des aînés. C'est 6 grandes associations là qui regroupent essentiellement des personnes aînées du Québec. C'est 150 000 personnes quand même, là, donc assez important. Et effectivement, cette coalition-là demande au gouvernement du Québec des états généraux, et parce que, dans le fond, on l'a vu, pendant la pandémie, là, on a pu constater les lacunes du système de santé, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement justement le soin aux services aux aînés. Et cette coalition-là, Pierre, fait 38 recommandations et je les trouve particulièrement intéressantes. Tu sais, des fois, on critique, on chiale, puis tout ça, mais sont dans le positif pour justement accompagner les aînés. Bon, bien sûr, on parle toujours de budget, là, parce qu'essentiellement, on veut toujours plus d'aide, mais on parle de au niveau des soins et des services à domicile. On veut plus de budget dans ce sens-là. Et c'est important parce que dans le rapport, Pierre, il nous est dit qu'il y a une personne sur 9 aurait pu et aurait voulu rester à la maison si on avait eu des soins. Mm-hmm. Et ça, c'est pas juste de dire, c'est pas juste, comment je pourrais dire ça?
Un rêve pieux.
Oui, voilà, merci, t'es plus réveillé que moi. C'est pas juste un rêve pieux parce que la réalité, c'est que quand les personnes restent plus longtemps à la maison, un, c'est de la qualité de vie. Deux, ça coûte beaucoup moins cher à la société que d'installer tout le monde dans des gros bâtiments. Puis tout ça, ça coûte beaucoup moins cher. Et peut-être que ça serait le temps d'y penser. Là, je sais que la CAQ s'est commise sur son engagement des maisons des aînés. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est la priorité? Moi, je suis assez... j'ai envie de les écouter, ces personnes-là. Premièrement, elles le vivent, elles savent ce dont elles parlent. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça la priorité où il n'y a pas d'autres possibilités. Ils font une autre demande aussi pour modifier la Charte des droits et libertés pour avoir une fonction de protecteur des aînés. Ah. Ça aussi, on l'a vu pendant, Pierre... la pandémie, bon, on a beaucoup blâmé. En fait, on cherchait qui était le responsable des aînés au Québec. On s'est dit, bon, c'est Marguerite Blais. Puis en même temps, Marguerite Blais ne cesse de nous répéter que c'est pas vraiment elle qui a du pouvoir, elle est pas vraiment en autorité. Mmh. Alors peut-être qu'effectivement, un peu comme un protecteur de la jeunesse, si on avait un protecteur des aînés, ça pourrait devenir intéressant de façon régulière de savoir ce qui se passe. Donc, ils font 38 recommandations, Pierre. Et surtout une demande, là, dans le fond, des états généraux. Je pense que ça pourrait répondre d'une autre façon que cette demande d'enquête là, que l'opposition demande. De toute mm-hmm. évidence, le gouvernement ne veut pas céder à ça. Ils veulent avoir le rapport de Joanne Castonguay. Mais est-ce que ces états-là généraux sur la condition de vie des aînés pourraient pas être une façon positive de dire, ben regarde, faisons le bilan de ce qui s'est fait, puis comment on peut se mettre en mode solution pour que si demain matin, il y en a une autre, ou peu importe, comment on peut faire pour se préparer un petit peu mieux? Comment on peut faire? Parce qu'on a parlé tellement de mourir dans la dignité. Ouais. On peut-tu vivre aussi un petit peu dans la dignité?
C'est bien dit, ben oui.
Donc, voilà, je voulais t'en parler parce que je trouve qu'un, c'est positif, puis deux, faut les entendre, les aînés. Ils ont des choses à dire.
Et bien sûr, et évidemment, on peut s'attendre à ça. Beaucoup de sorties cette semaine, compte tenu qu'on annonce le budget du Québec cette semaine. Donc, tout le monde fait son lobby pour avoir une part du gâteau, évidemment.
Penses-tu que c'est ça, Pierre?
Je pense que oui, mais tu sais, quand tu me parles de la ministre Blais qui dit qu'il fait un aveu d'impuissance, ça ne marche pas. Le protecteur des aînés, ça devrait être le ministre des aînés, comme le protecteur pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ben, ça devrait être la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest. Ici, on s'attend à ce qu'il y ait du mouvement, puis d'ailleurs, ici, honnêtement, c'est très préoccupant de voir encore une autre femme qui a été tuer un autre féminicide. Je veux dire, c'est une situation, là, c'est très inquiétant quand on constate que l'an passé, on en a déclaré 8 et que déjà au mois de mars, on est rendu à 6.
Ouais, ça commence à faire peur. Là. C'est pas absolument la première fois, Pierre, qu'on en parle. Là. On est rendu à 8, tu as raison de le dire. Vendredi, Nadège Jolicoeur.
On est rendu à 6, c'était 8 l'an passé, c'est ça.
On est rendu à 6, oui, c'est ça. OK. Donc, on est rendu à 6, une femme qui est morte vendredi, qui serait morte aux mains de son conjoint. Et ça fait 5 orphelins hein, aussi, là, parce que c'est pas... C'est un féminicide, c'est en soi horrible, odieux, et vraiment, on est choqués de ça. Mais quand, en plus, on voit qu'il y a des dommages collatéraux majeurs, là, 5 enfants qui se retrouvent orphelins du jour au lendemain, ça va avoir des conséquences énormes sur le plan de la santé physique, mentale, morale, mais sur le plan de la société. Ces enfants-là vont avoir besoin d'aide. Et là, on apprend qu'il y en a une autre femme de 29 ans, Pierre, qui se bat contre, qui pour sa survie, en fait, qui elle aussi aurait été victime de violences conjugales. Alors là, tu dis, OK, ça n'arrête pas, ça commence, et même les gens qui s'occupent des femmes victimes de violences parlent d'une épidémie de féminicide. Ça commence à ressembler à un fléau. Je sais que tout le monde, il y a personne qui va dire que c'est une bonne affaire, il y a personne qui applaudit, tout le monde est indigné. Je pense que c'est unanime, le constat est unanime. OK, mais on fait quoi maintenant? Et je suis allée retrouver, il y avait eu un rapport en décembre, Pierre, un rapport de comité d'experts sur l'accompagnement des victimes de violences, puis ça s'appelait Rebâtir la confiance. Il y avait eu 190 recommandations. Et 190 recommandations, l'impact, la réalité, c'est que quand il y en a trop comme ça, là, ça suscite un désintérêt parce que là, tu ne sais plus par où prendre ça. Ouais. Écoute, je suis allée le relire ce matin et je me disais, OK, par où on peut prendre ça? Lesquels on peut mettre en application le plus rapidement possible? Mm-hmm. Je ne sais pas si Mme Charest s'est fait un plan de match dans l'application de ces recommandations-là. Je ne sais pas s'il y a une équipe de guerre, un team. Là, tu sais, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent en disant, OK, là, il faut qu'on se fasse un plan de match. C'est fini, il faut que ça arrête. C'est beau l'argent aux maisons d'hébergement, il faut que ça se rentre. Je ne sais toujours pas si c'est rendu.
Effectivement, très bien.
Ça, c'est la première chose. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui dit, OK, là, par où est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'il faut de l'aide aux hommes? Est-ce qu'il faut faire de l'éducation? Est-ce qu'il faut sortir les femmes du milieu? Est-ce qu'il faut faire quelque chose au niveau judiciaire? Parce que dans Le Devoir, ce matin, on nous apprend à être certaines petites horreurs, là, tu sais. Pierre, si une femme est victime de violence conjugale, elle se retrouve dans une maison. Le monsieur, souvent, passe 24 heures en prison, mais se retrouve dans sa maison.
Oui, continue son bonhomme de chemin, puis demeure une menace potentielle pour cette femme-là.
Oui, exact. Et même dans Le Devoir, on nous apprend que la détention est souvent l'exception. Donc, tu dis, OK, elle vit toujours en état d'insécurité. Alors là, tu dis, OK, tu fais tout ça, ces associations-là. Y a-tu quelqu'un qui veut nous proposer un plan de match?
Voilà.
Je comprends là que c'est pas demain matin, là, c'est pas parce qu'on met le poing sur la table que ça va arrêter. Mais il faut qu'on sente que c'est devenu un projet commun.
Oui.
Tout le monde travaille à ça. En tout cas, je l'espère.
Ah oui, absolument, mais tu as tout à fait raison. Puis la pandémie a exacerbé tout ça. Alors, je pense que c'est une urgence majeure, immédiate.
Une urgence nationale.
Absolument. Isabelle Charest, effectivement, ne devait pas s'attendre à ça lorsqu'elle a été nommée là, il y a 2 ans. Mais maintenant, il y a vraiment, comme tu dis, une cellule de crise à bâtir pour pouvoir arriver avec des solutions concrètes. Et merci pour toutes tes recherches, d'ailleurs, que tu viens de faire sur ce dossier-là. Bonne journée, Caroline.
À demain,
on se
reparle
demain.
Bon
bye.
Barbecue.
Bye.